Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Moi je trouve ça imposant, déjà pour un petit village comme ça, c'est joli. Les pierres, ces vieilles pierres typiques de la région, d'après ce qu'on nous a expliqué.
J'étais impressionnée par le bâtiment quand je suis arrivée, et cette grandeur. Mais on n'a pas fini de la visite pour le moment, puisqu'il y a un spectacle.
Moi je dirais le calme, la tranquillité, et puis peut-être un lieu qui amène à la prière.
De méditation, de recueillement, c'est magnifique. Ça nous change un peu des villes et du quotidien.
Cette semaine, nous avons mis le cap au sud-est, direction Sud-Aveyron. Nous sommes en route pour l'abbaye cistercienne de Sylvanès, dont la notoriété en 40 ans a largement dépassé les frontières régionales et nationales. En 1975, pourtant, tout était à faire et à inventer. Michel Volkovitsky, directeur artistique du Festival de musique sacrée de Sylvanès, est l'un des pionniers auprès du père André Gouze de la renaissance de l'abbaye.
Alors quand nous sommes arrivés, il reste ce que nous avons actuellement. Nous n'avons rien reconstruit. Nous avons restauré, nous avons nettoyé, nous avons conforté. Évidemment, nous aurions aimé pouvoir trouver à un moment les moyens de peut-être de redessiner l'aire du cloître, puisque nous n'avons plus qu'une travée de cloître. Mais ce qu'il y avait, il y avait d'abord son église qui était splendide. Et moi, j'ai le souvenir de la première fois où j'ai pénétré dans cette église, avec cette impression de rentrer dans une grotte absolument profonde, d'abord parce que ça faisait des années que les écoulements d'eau ne se faisaient plus par le sol, et que tout était remonté par les murs, dont l'église était entièrement recouverte de moisissures, de verdure, de jusqu'au sommet des voûtes. Et quand on rentrait, on avait l'impression vraiment de rentrer dans une grotte verdâtre qui suintait en permanence. Ça a été une impression extraordinaire. Donc là, le travail pour nous a consisté à un nettoyage, mais surtout, bien sûr, traiter les sols, refaire les drains, soulever ces dalles. Ça, c'est un chantier monument historique qui a été, je dois dire, celui qui a été le dernier, d'ailleurs, qu'on nous a fait dans les années 90, qui a été le plus spectaculaire parce que toutes les dalles du sol ont été soulevées. On a retrouvé le sol d'origine qui avait été surélevé au XVIIe siècle, certainement justement à cause de ces problèmes d'humidité. Et là, on a pu faire un système de drainage, donc tout à fait avec les moyens modernes, et également installer un système de chauffage au sol. Voilà ce qui nous a permis effectivement de ne pas dépareiller le lieu, mais surtout de pouvoir l'utiliser pendant l'hiver, voilà, parce qu'il fait très froid à l'Aveyron. Voilà. Donc ça a été le dernier chantier, mais la restauration a commencé en 78 grâce à une charte culturelle que le département de l'Aveyron a signée avec l'État. Et les premières parties donc, de restauration pour nous, ça a été de remonter un bâtiment entre le scriptorium et le logis abbatial, dont il y avait des ruines. Et dans ce bâtiment, nous avons installé des cuisines et deux étages de sanitaires qui, très vite, ont correspondu à deux étages au-dessus du scriptorium d'hébergement. Parce que dès les premiers étés, nous avons accueilli du monde. Mais à l'époque, on les logeait, ça campait, on allait chez l'habitant. C'était vraiment l'accueil très, très rudimentaire. Donc, comme on commençait...
C'est l'envie d'être ici,
voilà. Comme on a dit, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord accueillir nos hôtes convenablement. Donc, on a fait une petite hôtellerie de 15 chambres et un grand dortoir, donc qui est toujours le réjouissement des enfants quand ils viennent ici, mais aussi des adultes qui aiment beaucoup ça, certains. Donc ça a été le premier chantier de restauration. Et après, on s'est attaqué aux parties plus classées, donc à la fois le cloître, la salle capitulaire et le scriptorium, qui, comme je vous disais, avait pendant longtemps servi de ferme. Le scriptorium, notamment, c'était une bergerie. Nous, quand on est arrivé, la première fois que j'ai visité l'abbaye, c'était en 72, et il y avait encore les mangeoires qui débordaient de foin, un sol de terre battue qui était très rudimentaire, le sol d'une bergerie. Et donc ça a été les chantiers qui ont été faits tout de suite après dans la foulée de l'hôtellerie. Gros chantier pour lequel d'ailleurs on a eu du mécénat, notamment de la Fondation des Pays de France, parce que c'était quand même cher. Il fallait que l'association amène sa part. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un patrimoine municipal, ça appartient à la commune. Et je crois que si la commune n'avait pas eu la chance de trouver ce dynamisme associatif de l'association des Amis de Sylvanet, je pense que ce patrimoine n'aurait jamais pu le garder et l'entretenir elle-même, c'était trop lourd. Parce que chaque fois, quand l'État, les monuments historiques amenaient de l'argent, le département amenait de l'argent, puis ensuite il y a eu la région, l'association amenait la part communale. Et ça, c'était important de dire que là, ce dynamisme associatif a permis à notre petite commune, dont je suis le maire d'ailleurs aujourd'hui, hein, de garder ce patrimoine fabuleux. Voilà. Et ensuite, il y a eu le logis d'Albastien, dans lequel nous nous trouvons actuellement, et qui était l'ancien appartement du père abbé, installé au XVIIe siècle, sur l'emplacement de l'ancien dortoir des moines, avec accès direct, donc avec le grand escalier des bâtines qui descend dans l'église. D'accord. Voilà. Ça, c'est, alors, tout ça, alors, je crois que c'était la partie la plus délabrée. Le logis abbatial, c'était vraiment un repère de chouettes, et c'était le lieu de fantômes, c'était de toutes les peurs. D'ailleurs, on s'est beaucoup amusé les premiers étés où on était là à se faire peur, à s'amuser, à s'inventer des histoires tout à fait rocambolesques. Mais c'était un lieu qui a suscité chez nous un imaginaire fabuleux, extraordinaire. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous l'avons restauré dans son jus.
Magnifique.
Voilà, c'est simple.
Des tomates au sol, voilà, qui sont vraiment
des tomates de récupération. C'est de récupération monuments historiques, vraiment, nous ont permis de retrouver des matériaux très authentiques. Ah oui, très astiques, et on essaie quand même d'entretenir les lieux parce que ce sont de beaux lieux. Voilà, donc c'est vrai que ce lieu, nous l'avons restauré avec le souci de se dire qu'on allait le faire vivre, on allait l'habiter, car nous habitons dans les lieux.
Vous me disiez, c'est une réhabilitation.
Oui, c'est-à-dire, quand je dis réhabilitation, c'est-à-dire que, bon, c'est un patrimoine restauré, mais vivant. Oui. C'est-à-dire, nous l'utilisons.
C'est pas simplement... C'est pas uniquement pour la visite.
Non, c'est pas un lieu simplement de la belle pierre que l'on visite, mais c'est un lieu, vous voyez ici, là, on est dans l'ancienne petite cuisine.
D'où l'importance de mettre le chauffage au sol.
Voilà, avec la belle cheminée très ancienne et tout, et cette petite cuisine, eh ben, c'est quand même l'endroit où le personnel de l'abbaye se réunit, mange à midi, fait ses... Voilà, donc c'est un lieu. En face, il y a l'ancienne chambre du père abbé, l'ancienne bibliothèque que nous avons regardée en bibliothèque, qui est une bibliothèque musicale. Voilà, tout ça sert, je veux dire. Et ce sont des petits salons qui permettent aux stagiaires de venir y travailler.
En 1975, en effet, une poignée de jeunes gens un peu fous s'installent provisoirement dans l'abbaye en ruine. Plus de 40 ans plus tard, un certain nombre d'entre eux, à qui il a fallu une bonne dose de courage, de ténacité, d'inconscience, de générosité et de foi, sont toujours là. Ils ont fait de Sylvanès un haut lieu de la culture, de l'art et de la spiritualité.
C'est un projet très vaste. Mais alors, vous savez, au départ, quand on nous dit quel était votre projet, on n'avait pas de projet. Pour nous, avec André, c'est la seule chose qui nous inquiétait, c'était de restaurer ce lieu qui était abandonné, qui ne servait plus, qui était presque pratiquement oublié de tous les guides touristiques. Et quand on a rencontré ce lieu, évidemment, lui le connaissait depuis son enfance. Pour nous, nous n'avons eu de cesse de dire il faut faire quelque chose pour ce lieu, le faire revivre. Alors évidemment, le projet culturel est venu bien après. Dans un premier temps, ce qui était important pour nous, c'était de rendre ce lieu à sa vocation d'abord de louange, de spiritualité, de célébration. Alors évidemment, avec tout le travail qu'il commençait déjà dans la composition de la liturgie chorale du peuple de Dieu, c'est vrai que ce travail a trouvé ici un enracinement et un rayonnement très fort. Alors au départ, ça a été ça. Et puis évidemment, quand on a commencé à sensibiliser les pouvoirs publics et à montrer que ce lieu pouvait être un lieu vivant d'expression à la fois spirituelle, mais aussi d'expression culturelle, c'est là que nous avons un petit peu plus réfléchi et que je me suis engagé donc dans la réflexion, mais plus que la réflexion, la mise en place d'une manifestation culturelle. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait peut-être même parler à ce moment-là de mission ?
Oui, la notion de mission, elle vient après. Vous savez, sur le coup, on est dans l'euphorie, on est dans l'insouciance. Je dirais même qu'on était un peu pendant la folie parce qu'on n'avait rien. On n'avait rien, absolument pas le moindre. L'inconscience, mais une espèce de passion qui nous a pris pour ce lieu. Et il était important pour nous que l'on puisse vraiment faire quelque chose qui permette de donner à ce lieu, de lui redonner une dimension qui était la sienne. Grand lieu de tradition monastique, grand lieu de cette grande spiritualité cistercienne. Tout s'arrête à la Révolution française, et puis le silence, l'abandon. Alors pas complètement, puisque les parties monastiques ont été utilisées jusqu'en 1968 comme fermes, bâtiments agricoles. Et l'église, elle, sera fermée à peine 10 ans, de 1791 à 1801, et retrouvera tout de suite une activité d'église paroissiale, mais qu'elle avait, elle a toujours eu, je veux dire. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, il y avait un prêtre qui venait une fois par mois dire la messe, c'était le curé de Camarès, mais ce lieu était abandonné, voilà, et était en train de s'effondrer, puisque l'activité de la ferme ayant cessé, les bâtiments commençaient vraiment à se fissurer et allaient tomber.
Vous me parliez d'inconscience, de projets un peu fous. Et il y a également peut-être une part de providence, d'abandon, de confiance.
Ah ben écoutez, il n'y a eu que ça, je veux dire. Si on est arrivé dans ce lieu un jour, si on s'y est installé, d'abord André dans un premier temps et puis moi par la suite, je crois que, d'ailleurs je l'exprimais souvent, et lui aussi, je crois que dans ce projet, ce n'était pas un projet pour nous, ce n'était pas quelque chose que l'on faisait pour nous, mais on avait vraiment...
Vous êtes un passeur ?
Oui, je pense que... Alors maintenant, je peux dire qu'effectivement, nous avons été les acteurs d'une mission qui nous dépasse, parce qu'elle continue, la mission. Et à l'époque, dont on n'était pas vraiment conscient, moi, je sais que j'avais d'autres ambitions. Je voulais faire une carrière de chanteur, donc je me destinais à la musique. Et puis, progressivement, les événements de la vie m'ont ramené sur ce chemin de Sylvanès, au point que je m'y suis installé complètement, avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Donc, c'est quelque chose, vraiment, dans lequel nous avons été à la fois acteurs, mais en même temps inspiré, vraiment conduit, amené, accompagné, pour que ce lieu redevienne un lieu vraiment vivant, très fortement vivant.
Et par la musique, avec le festival, avec tout ce centre culturel, en quelque sorte, vous revenez à l'essence première de l'abbaye.
Ah ben bien sûr, c'est-à-dire d'abord c'est un lieu de spiritualité où se chante la liturgie, un lieu de rencontre où peuvent s'opérer des réflexions, des confrontations, notamment sur le dialogue interreligieux, l'écuménisme, mais également tous les problèmes qui touchent à l'actualité. Et puis également un lieu de transmission culturelle, ça c'est très important. À la fois s'enraciner dans... Alors on le fait surtout au niveau du répertoire du festival, s'enraciner dans les grandes traditions depuis les origines de notre civilisation jusqu'à la création contemporaine, avec une dominante qui est la musique sacrée. Mais il est vrai que depuis quelques années, on s'est ouvert aux traditions du monde, parce que là aussi, il y a ce langage musical qui permet un rapprochement, qui permet un dialogue, le partage, la rencontre de l'autre.
Et Dieu sait, les mots-clés de Sylvanès.
Oui, et Dieu sait si aujourd'hui on a besoin d'aller vraiment dans cette connaissance de l'autre, dans ce qu'il a de spécifique, de différent à nous, et qui en même temps en fait sa richesse, et une richesse qui est aussi une source à laquelle on peut nous aussi s'enrichir. Et c'est un peu une façon aussi de désamorcer toutes les haines, les peurs, les xénophobies qui malheureusement aujourd'hui prennent beaucoup trop d'importance dans notre monde.
Nous voilà donc arrivés. Depuis quelques kilomètres, nous apercevions l'abbatiale et les grands toits de Loz de cette abbaye de Sylvanès, rendue à la vie depuis plus de 40 ans, rendue aux hommes et à Dieu, grâce au frère André Gouze, grâce à Michel Volkovitsky et à tant d'autres, charpentiers, sculpteurs, financiers, artistes, musiciens, tailleurs de pierre, tous ceux et celles qui aujourd'hui font de Sylvanès un lieu de foi et de culture. Nous sommes toujours avec Michel Volkovitsky, notre guide, aujourd'hui.
Donc ici, on se trouve donc dans le logis abbatial, et il faut se dire qu'à l'origine, c'était l'emplacement du dortoir des moines. Vous voyez effectivement la porte qui donne sur l'escalier des matines. Voilà. Et le dortoir, on pouvait l'imaginer de très large, d'une pièce unique qui était collective, certainement avec un plafond de bois. Au XVIIe siècle, le père abbé va s'installer dans ces lieux, l'abbé commendataire qui est plus vraiment dans cette tradition cistercienne, mais qui est plus là pour gérer. C'est un propriétaire terrien qui vient gérer toutes les possessions et les terres de l'abbaye. Il installe son appartement. Donc ici, maintenant, ça a été structuré en appartement avec sa chambre, des salons, la bibliothèque, le salon d'accueil. Et puis voilà. Donc ça, c'est, je dirais, la partie qui a été restaurée au XVIIe siècle et que nous avons restaurée dans ce jus, hein, puisqu'il était important de conserver cette époque-là. Alors c'est aussi, vous pouvez le voir, un salon d'exposition, voilà, de peinture, mais également de sculptures permanentes. Ça fait partie des sculptures du fonds permanent que nous avons reçu, donc des sculptures du sculpteur Zamoyski, voilà, et du musée qui se trouve au prieuré des Granges. Voilà. Alors là, on descend le grand escalier des Matines qui est 850 ans. Voilà. Alors là, c'est le stage des enfants qui chantent. Alors on se trouve dans l'église abbatiale, je dirais ça c'est vraiment le joyau de Sylvanès. En plus on a les chants des enfants là, qui préparent leur... Voilà, l'originalité de Sylvanès, c'est une église donc, qui a été commencée en 1151, qui s'est terminée en 1253, un siècle. Alors on peut se poser bien sûr des questions pour savoir pourquoi la construction a duré si longtemps. On n'a pas véritablement de réponse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce temps va inscrire dans la pierre de Sylvanès un passage d'un roman relativement tardif. On est en 1151, voilà, mais qui est quand même splendide ici, qui va être tout à fait... Voilà, tout à fait en accord avec la spiritualité bernardine. Vous voyez le dépouillement de la pierre. Il faut faire abstraction de ces vitraux, qui sont des vitraux du début du XXe siècle. Et puis cette magnificence de la pierre. L'originalité, une nef, pas de bas-côté.
Très
vaste nef. Et ce qui va permettre effectivement d'avoir aussi une acoustique tout à fait exceptionnelle ici. Donc, on voit inscrit dans la pierre ce passage d'un roman tardif à un gothique méridional, vous voyez, avec cette grande rosace là qui termine. Et on voit effectivement comment la voûte progressivement va se briser. Mais on est quand même dans un gothique très primitif. On pourrait même dire que c'est encore du roman tardif. Voilà. Et c'est la force de Sylvanès.
C'est un moment charnière en passage. Hein.
Ah oui, oui, oui. Puis alors, bon, ce que je trouve très, très original ici, c'est cette volonté d'avoir fait cette église massive. Quand on est à l'extérieur, on a l'impression qu'on va rentrer dans une grande ferme, une grande grange. Et par contre, quand on rentre à l'intérieur, c'est un jaillissement de la pierre. Ça, c'est le génie de la spiritualité cistercienne. Et Bernardine en particulier qui disait, de l'extérieur, il faut que les choses soient modestes. Mais de l'intérieur, tout doit être pour l'élévation, le jaillissement. Cet jaillissement de la pierre, c'est comme une prière qui s'élève vers Dieu. Et ça, ici à Sylvanès, c'est très, très, très bien traduit. Elle nous invite à un équilibre intérieur, cette église. C'est ce que j'aime ici. Moi, je reconnais que souvent, quand je suis fatigué, quand j'ai des problèmes et tout, je viens me recueillir là. Et c'est comme si, tout à coup, il y avait une sorte... Elle donnait une sorte d'énergie qui vous reconstruit intérieurement, qui vous donne le courage et la force de continuer. C'est un lieu très tellurique, très terrestre et en même temps très céleste. C'est ça que j'aime beaucoup, là. Cet équilibre. Et nous, on est les médiateurs.
Entre le ciel et la terre.
Oui. On va aller vers le cloître.
Je vous suis, nous vous suivons.
Voilà. Toujours sur le chant des enfants. Voilà, donc là c'est la porte du cloître qui relie avec l'église. Et là ça chante encore, là c'est l'atelier des adultes. Alors du cloître, vous voyez, il n'en reste qu'une partie, hein, puisque ce cloître donc a... Il est simple lui aussi. Alors vous voyez, on voit bien les traces du cloître le long de l'église. Ce cloître, il avait déjà disparu à la Révolution, hein. Donc, vous voyez, l'abbaye, elle est pas grande. Mmh. Toutes les parties, je dirais, sud, le réfectoire, les services, toute la partie des convers, tout ça a disparu. En grande partie à la restauration, justement, après la vente des biens nationaux, les propriétaires ont eu peur de devoir rendre ce qu'ils avaient acquis, disons-le, de façon un peu frauduleuse. Cette vente des biens nationaux, quand même, on pique et puis on vend. Et donc, ils vont abattre beaucoup de bâtiments et vendre la pierre comme matériau de construction. Voilà. Donc ici, c'est l'ancienne sacristie qui aujourd'hui nous sert d'une petite librairie avec les produits de l'abbaye, surtout ses productions discographiques, ses livres, et puis un petit coin de produits monastiques, bon, beaucoup de livres aussi, voilà, avec des esquisses de fresques du XIVe siècle. Là, et puis dans la salle capitulaire où se tient sa répétition de chant. Là, c'est pareil, c'est un salon qui a été modifié au XVIIe siècle. De l'origine, on garde le plan carré. Les deux très beaux exemples de fenêtres géminées, vous voyez, avec ça c'est typiquement cistercien. Mais au XVIIe siècle, le père abbé va transformer cette salle en salon. Et là, vous voyez qu'on avait ces décorations de gypserie. On va entendre la répétition, on va être prudent.
On reste juste à...
Voilà, ici c'est le scriptorium, donc c'est une salle du XIIIe siècle avec ces très beaux piliers centraux qui se déploient donc en croisée d'ogives et en arc doubleau, voyez, et c'était la bergerie. Alors la bergerie, dès le début du XIXe siècle jusqu'à 1969, l'abbaye va être utilisée donc comme bâtiment agricole. Et ici, c'était, bon, moi je l'ai vu quand je suis venu la première fois en 72, avec les mangeoires, dont le sol était comblé, vous voyez, on rentrait directement. Le là, sol, voilà, oui. C'est-à-dire vous le sol était comblé, dont le
récupérer le sol.
Voilà,
initial.
Le pied des piliers était enterré, donc il y avait un torchis de cailloux et de terre, donc tout ça, bien sûr, a été enlevé. On a pu dégager la base des piliers, et puis les monuments historiques nous ont permis de récupérer ce sol de pierre qui est un peu identique à celui de l'église, qui est magnifique. Voilà. Là, on redonne à cette salle sa pleine valeur, sa pleine ampleur.
Sol en est là.
Elle est splendide, voilà. Ouais. Alors c'était le scriptorium, vous voyez, la particularité très très ajourée des deux côtés, ce qui permettait au moins de travailler un peu le matin et un peu l'après-midi à la lumière du jour. Voilà, c'est exactement là où ils faisaient leur lectio divina, donc seuls.
Et au fil de la journée, nous percevons peu à peu l'âme de Sylvanès, son esprit toujours présent à travers le festival.
Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Je crois qu'il y a un esprit dès l'instant où on se confie à l'art. Hein, l'art, il est d'abord, voilà, il est dans cette notion de service de l'homme et de l'humanité, très au sens large. Hein. Voilà. Donc, et ici à Sylvanès, ça prend une dimension peut-être plus importante parce que notre activité culturelle, nous l'avons enracinée dans un lieu de tradition chrétienne. Et ça, on n'a pas peur de le dire. Et on est aimé d'un christianisme ouvert, d'un christianisme, je dirais, accueillant, d'un christianisme qui est là dans le regard qu'il pose sur l'autre avec une certaine douceur, une certaine tendresse, c'est une certaine charité. C'est ça l'amour du prochain, hein, accepter l'autre tel qu'il est. Et c'est beau. Et c'est beau parce qu'on s'y enrichit. Moi, je sais que tout ce que nous faisons au niveau des rencontres culturelles ici, et notamment dans toute la rencontre des grandes traditions du monde, c'est un enrichissement. Et puis, c'est une façon aussi de poser un regard différent sur notre tradition et de la faire grandir.
Alors, c'est peut-être aussi une façon ici à Sylvanès, qui est un lieu, comme vous venez de nous le dire, un lieu chargé d'histoire et puis peut-être hors du temps. C'est vrai qu'il faut vouloir arriver jusqu'à Sylvanès. Ça se mérite.
Ah, voilà, vous avez dit le mot qui convient. Moi, j'aime bien le dire. Écoutez, Sylvanès, ça se mérite. Alors, c'est vrai que quand les gens arrivent, oh là là, c'est loin. Et puis, au bout de quelques jours, ils se disent, mais c'est merveilleux. Parce qu'ici, Sylvanès, il faut l'imaginer au cœur de cette vallée qui était une vallée boisée, d'où le nom de Sylvanès, hein, le lieu de la forêt, qui était une vallée non seulement boisée, mais qui était riche en sources d'eau, dont les moines cherchaient quand même cette commodité. Et la nature est restée quand même très belle, très protégée. Vous savez, Sylvanès, ce n'est pas vraiment un village, ce sont des hameaux, dont un plus important, qui est le bourg-centre, avec une très très belle abbaye du XIIe siècle. Et donc, ça, on essaie de le préserver. Alors, c'est parfois difficile, parce qu'il y a quand même un afflux touristique ici qui est très important, avec du monde qui vient, pas toujours les équipements qui permettent d'accueillir les gens dans une certaine facilité, mais on essaie quand même de faire que ce lieu ne soit pas envahi, ne soit pas asphyxié par un trop-plein de passages et de flux.
Mais néanmoins, être quand même toujours en phase avec le monde.
Mais on est complètement dans le monde, parce que ne serait-ce qu'à travers les propos que nous tenons dans nos colloques, l'éducation artistique qui pour nous est devenue une des priorités de notre action au service des enfants du monde rural, puisqu'on est quand même dans le rural profond, il ne faut pas l'oublier. Et depuis 34 ans, Sylvanès a structuré de par son projet tout un territoire, à la fois dans une dimension et culturelle, une dimension sociale aussi, éducative et bien sûr économique. Parce que ça, il faut aussi le dire, il arrive un moment où un projet culturel bien mené a forcément des retombées économiques sur un territoire. Et c'est vrai que, vu de par l'attractivité de ce lieu qui attire des milliers de personnes tout au long de l'année, et bien autour de nous, c'est organisé, des chambres d'hôtes, des hôtels, des restaurants, des magasins, des licences de taxi qui ont été prises. Les gens ont compris qu'effectivement, ce tourisme, parce qu'on est aussi dans la dimension touristique ici, hein, qu'il soit culturel, qu'il soit religieux ou qu'il soit proprement celui des amateurs d'un beau patrimoine, et bien génère une économie sur ce territoire qui est quand même un territoire rural en difficulté, il ne faut pas l'oublier.
Et puis le sacré, cette notion de sacré que vous mettez toujours bien en évidence dans votre festival, peut passer à travers le tourisme, à travers la nature, les champs.
Mais oui, parce que le sacré, il peut se vivre dans cette rencontre à Dieu, mais il peut se vivre aussi dans cette rencontre à l'homme. C'est la dimension spirituelle de l'homme lui-même qui est appelé toujours à s'élever vers un meilleur, un plus grand, un plus haut, je dirais même un plus beau de lui-même. Donc c'est ça aussi la spiritualité. Et des gens ne le traduisent pas forcément dans une expression religieuse, mais ils peuvent vraiment l'exprimer très fortement dans une expression humaniste. Et donc tout cela, c'est un peu le charisme de Sylvanès de révéler à chacun cette part de lui-même, qui est une part importante, qui est notre part profonde, et qui est sans doute notre part la plus intime, mais sans doute la plus authentique.
Et plus de 40 ans après le début de l'aventure, la Bastielle de Sylvanès, à l'acoustique exceptionnelle, ne cesse d'accueillir des musiciens de renommée internationale. Conjuguant le grand répertoire sacré d'Occident et les traditions musicales sacrées et populaires du monde entier, il nous invite au voyage, à la découverte de chants, de danses et de rythmes d'ailleurs.